Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite. Vous êtes dans l'émission La Voix est libre, une émission animée par les bénévoles de Picasoft, un chaton UTC1 qui s'est donné pour but de sensibiliser aux enjeux du logiciel libre et d'héberger des services alternatifs à ceux des GAFAM. Donc aujourd'hui, je suis avec Rémi et Sarah. Bonjour.
Bonjour. Salut.
Et je vais laisser la parole à Sarah pour présenter l'émission d'aujourd'hui.
Bonjour, alors dans notre émission, nous allons aborder les thématiques qui gravitent autour de l'écologie et du numérique, plus particulièrement les liens entre la durabilité et la culture du libre. Et souvent, quand on parle de durabilité, on pense au manque d'alimentation, au transport ou encore à la surconsommation. Mais dans tous les cas, je pense que ça tourne autour des valeurs communes, que ce soit le soin à l'environnement ou encore le respect des libertés. Et la culture du livre a beaucoup de valeurs communes avec celle-ci, donc c'est le seul que nous allons traiter, notamment par exemple la décentralisation ou encore le respect des libertés, donc comme nous l'avons annoncé. Et c'est ça qu'on va expliciter maintenant.
Ok, donc pour commencer, on peut peut-être parler un peu des enjeux du numérique et présenter un peu le logiciel libre GAFAM. Donc pour commencer, je vais parler un peu de l'omniprésence du numérique dans beaucoup de domaines. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique est partout. Par exemple, il est présent en agriculture, par exemple dans nos moissonneuses qui fonctionnent grâce à des logiciels aujourd'hui, qui ne sont plus simplement mécaniques. C'est aussi présent dans le secteur médical, c'est présent vraiment partout. Le problème avec ça, c'est que dans notre modèle économique aujourd'hui, en fait, le pouvoir est donné à quelques entités qui possèdent un peu une emprise sur le logiciel et etc. qui seront utilisés dans les produits. Et donc du coup, c'est eux qui vont détenir le pouvoir et plus le consommateur qui ne peut plus étudier un peu son outil, qui ne peut plus le réparer, qui ne peut plus le comprendre. Et c'est ça qui pose problème avec Dell des GAFAM, mais le modèle qui est général aujourd'hui dans l'économie. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose?
Je veux juste dire un petit mot. Tu parlais des équipements de les moissonneuses, par exemple.
Ouais.
Alors, j'ai plus les références en tête, donc peut-être que je mettrai les liens si je les trouve dans la description de l'émission. Mais je crois que c'est John Deere, du coup, qui est un des plus gros fabricants de machines agricoles, qui fabrique aujourd'hui des machines où, en fait, les problèmes qu'il y a quand on a des pannes, c'est des pannes logicielles. Et du coup, les agriculteurs ne peuvent pas les réparer. En fait, il faut changer le truc, faut limite tout changer, ou en tout cas passer par John Deere. Je parle de John Deere parce que c'est plus gros, mais on a d'autres aussi qui fonctionnent de la même façon, pour réparer les tracteurs. Ce qui est quand même très problématique, quand, à l'époque, les tracteurs, bah, si un truc qui pétait, c'est pas grave, on mettait deux coups de marteau dessus et ça le réparait. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et du coup, là, on voit qu'il y a pas mal d'agriculteurs, notamment aux États-Unis, qui commencent à récupérer des vieux tracteurs, parce qu'au moins ils peuvent les réparer et ils sont pas obligés de relâcher de la thune dès qu'il y a un petit problème. Donc ouais, on voit que le numérique est partout, et que des fois, c'est mieux quand on en a pas, quoi.
Totalement. Et ça se trouve même dans les voitures, par exemple, pour les particuliers. C'est quelque chose qui arrive souvent. On a une idée, on répare la panne et pour autant on peut pas refaire fonctionner la voiture comme il faut parce qu'il faut avoir par exemple le code du constructeur pour pouvoir remettre à zéro le logiciel ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui est très embêtant parce qu'on est obligé de passer par le concessionnaire ou par le constructeur pour pouvoir récupérer pleinement les droits d'usage sur sa voiture. Du coup, Sarah, tu peux peut-être nous parler un peu des libertés qu'offre le logiciel libre qui viennent un peu nous sauver sur les problèmes qu'on a vus précédemment.
Oui, du coup, en contradiction avec ce système qui, au final, fait que nous sommes soumis au modèle de GAFAM, et donc, du coup, que, comme vous avez dit, une poignée de personnes va pouvoir contrôler nos usages. Les logiciels libres ont comme valeur 4 libertés. Donc, je vais les énoncer de manière un peu simplifiée. La première étant la liberté d'utiliser le logiciel, quel que soit l'usage. La deuxième, la liberté de copier ce logiciel. La troisième, la liberté d'étudier le logiciel. Et la quatrième, la liberté de modifier le logiciel et de pouvoir le redistribuer. Donc ça, c'est pour moi un principe qui rentre un peu dans la volonté de changement de modèle et le respect des libertés qu'on peut trouver dans les mouvements qui sont pour la préservation de l'environnement, parce que des fois on pense au respect de la nature, des animaux, mais il y a aussi beaucoup le respect de l'individu. Et c'est ça qu'on retrouve beaucoup dans la culture du livre, c'est le respect de la personne et aussi de ses libertés d'utilisation et de pouvoir redistribuer et se comprendre par lui-même les problèmes auxquels il peut être confronté.
Ouais, c'est ça, hein. C'est ce qu'on disait d'ailleurs la semaine dernière, ce que disait Kig notamment dans la conférence qu'on reprenait la semaine dernière, que dans le logiciel libre, à la limite, le logiciel, on s'en fout. Ce qui compte, c'est libre, et c'est que l'utilisateur soit libre, que l'humain soit libre de faire ce qu'il veut, d'utiliser comme il veut et d'être libre, quoi.
Oui, finalement, on n'entend pas logiciel libre au sens du logiciel seulement, mais vraiment autour de avec tout ce qu'il y a autour, quoi, plutôt l'éthique libre, donc ouais, la liberté de chacun, quoi.
Et puis c'est vrai que c'est une mentalité qui est très dans le durable, parce qu'au final, si on continue de vivre dans un système où on est oppressé par une famille de personnes, on peut arriver à des tensions sociales ou encore politiques. Et le fait d'arriver à un système beaucoup plus horizontal, ça nous permet de maintenir une sorte d'équilibre, non pas qui est partagé pour ceux qui n'utilisent pas des logiciels libres, mais ça nous permet de rentrer dans un système un peu plus riche au niveau des connaissances et des transmissions de savoir. Peut-être comment tu peux parler un peu de ça, du fonctionnement un peu horizontal de ça?
Oui, je peux en parler, effectivement. Le logiciel libre, c'est quelque chose qui est apparu dans les années 80, et ça a rendu les citoyens plus autonomes, dans le sens où certains sont devenus des consommateurs passifs d'un marché qui est total, donc le marché qui est offert par les logiciels privateurs et les GAFAM. Et aujourd'hui, le numérique, en fait, va toucher, comme on l'a dit, tous les domaines. Et ce sont des domaines où le savoir est la clé. Et du coup, logiciel pour un peu mettre en forme et analyser les données. Donc on en a parlé, les problèmes au niveau de la moissonneuse, mais c'est aussi les problèmes au niveau de la publication scientifique, etc. Du coup, le logiciel libre, en redonnant liberté en fait aux utilisateurs, les utilisateurs vont pouvoir en fait se poser les questions, ils vont pouvoir réfléchir au logiciel, ils vont pouvoir en fait créer des communs. Et cette horizontalité, oui, en fait, passe par là, c'est que chacun a le pouvoir. Et du coup, tout ça va permettre de se réapproprier des connaissances, du savoir-faire, et en fait, se réapproprier en fait la totalité de la chaîne, donc au niveau des données jusqu'à la production en fait des analyses, etc. Et du coup, ça nous montre un peu que tout le monde a le pouvoir, et en fait, c'est à nous de faire changer les choses. Donc, que ce soit dans les luttes pour le climat, dans les luttes pour l'environnement, mais en fait dans tous les domaines, c'est à nous de faire changer les choses et ça peut passer par les valeurs du logiciel libre. Donc, ça ne va pas être les institutions, les États ou les entreprises qui vont faire bouger les choses et ça va être à nous, citoyens, de nous réapproprier les communs. Voilà.
Alors, je sais pas si vous voulez en parler maintenant ou si on en parlera peut-être plus tard, mais là on parle quand même beaucoup de numérique, de logiciels libres. Ok, c'est bien beau, mais est-ce que le numérique, le logiciel, donc pas forcément la philosophie qu'il y a derrière, hein, mais vraiment le fait d'avoir un appareil électronique qui fait tourner un logiciel, est-ce que c'est vraiment durable? Est-ce que là, par exemple, on voit pendant cette crise sanitaire que les échanges mondiaux sont quand même très réduits? Si on reste dans ce cas-là, est-ce qu'on pourra toujours continuer à faire du logiciel, à faire du matériel qui fait tourner le logiciel? Est-ce que c'est vraiment durable de faire du logiciel?
C'est une très bonne question. Alors, à mon sens, c'est très bien. Ça fait des choses très belles, le logiciel, mais en effet, c'est pas super durable, je pense. Après, c'est mon avis personnel. Je pense que derrière le logiciel libre, ouais, il faut beaucoup entendre en fait une culture libre. Et donc, on peut parler par exemple des low-tech, etc. Les low-tech, ce ne sont pas des logiciels, pourtant, pour certaines, elles sont publiées sous licence libre, donc sous une licence qui rappelle le logiciel libre. Et ça, en fait, ça permet de se réapproprier aussi le savoir-faire, mais pas au niveau du logiciel, plutôt au niveau du matériel. Donc, comment, par exemple, couper des planches de bois pour monter un établi ou monter une maison. Et il y a plusieurs projets qui proposent un peu ce modèle de logiciel libre sur plutôt des technologies plutôt que des logiciels. Donc, on peut citer par exemple Open Source Ecology qui crée des sets de machines, des kits de machines sous licence libre pour pouvoir reconstruire un village. On a Low-Tech Lab qui est un magazine de low-tech sous licence libre. On a le projet Précieuse Plastique qui permet de recycler, de faire des machines pour recycler du plastique sous licence libre aussi. Et ou alors le projet Camp qui est plutôt un projet d'installation urbaine pour faire un village écologique qui encore une fois obéit au principe du logiciel libre.
Et c'est vrai que ta question est super intéressante parce que je voudrais pas non plus qu'on tombe dans l'illusion de se dire que vu qu'on utilise des logiciels libres, qu'il y a une belle culture derrière, que le numérique ne pollue pas du tout, et c'est pas du tout le cas parce que le monde numérique ça pollue beaucoup, notamment par le stockage de données avec des data centers, mais aussi rien qu'en achetant un portable, un PC, parce qu'il faut extraire beaucoup de matériaux rares et que du coup ça a un coût écologique. Donc c'est vrai qu'il faudrait pas tomber dans ce panneau-là. Après, je pense que ce serait durable pas forcément dans le sens où on pourrait toujours utiliser cet environnement numérique avec lequel on est habitué, mais plutôt que c'est déjà un progrès dans la manière de percevoir les choses que de se dire qu'on va essayer de reprendre le pouvoir de ce qu'on fait, d'avoir un fonctionnement plus horizontal. Et c'est du coup ce qu'on retrouve dans l'écologie au final, le fait de revenir au local, d'essayer de comprendre les choses et d'essayer d'identifier les problèmes. Et bien sûr, le numérique, c'est un problème. Et peut-être que l'aborder d'une manière différente, ça peut déjà être un progrès.
En fait, on a plusieurs moyens de réagir face à cette crise écologique. Donc, on a celle qu'on vient d'aborder avec les low-tech qui est compatible avec le logiciel libre. Mais on a aussi l'exemple plus high-tech, donc par opposition avec low-tech, qui prône un peu le calcul pour optimiser nos productions, optimiser nos déchets, nos émissions de gaz à effet de serre, etc. Et typiquement, on peut citer Tesla qui mise plutôt sur cette stratégie-là. Et ça peut être aussi compatible avec le logiciel libre encore à cet endroit-là. Par exemple, Tesla a publié ses brevets sur les batteries et la recharge de celles-ci sous licence libre. Compatible avec l'open hardware. Et donc les deux sont compatibles, mais à mon sens, le low-tech gagne quand même. Donc le low-tech gagne à utiliser le logiciel libre et le logiciel libre gagne du low-tech. Là où le logiciel libre va apporter au low-tech en fait cette idée d'horizontalité, de création de commun, de savoir-faire commun, de connaissances communes. Le logiciel libre doit gagner du low-tech au niveau de la réflexion en fait sur quand est-ce que c'est utile d'avoir du logiciel et quand est-ce que c'est utile en fait d'utiliser toutes ces technologies, etc. Par exemple, aujourd'hui, on peut parler du coût d'Internet, du coût écologique d'Internet qui est très 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 important, c'est 10% de la consommation mondiale. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est autant que le transport aérien. Et est-ce qu'on devrait aller vers un Internet low-tech, donc pour seulement les usages nécessaires, avec une certaine sobriété et avec des appareils qui sont peut-être un peu plus respectueux de l'écologie, ne serait-ce que sur la production de ceux-ci, puisque pour produire les Internet, les appareils qui vont faire marcher Internet, on utilise beaucoup de terres rares, etc. Et on sait très bien à quel point elles sont polluantes et à quel point aussi on risque d'en manquer plus tard.
Alors, déjà sur Tesla, bon, personnellement, je ne pense pas que mettre de l'intelligence artificielle de partout et consommer 99% des ressources de lithium de la planète, ce soit très durable. Mais bon, on pourra en débattre. Mais surtout, tu parlais de la consommation de l'Internet. Alors, oui, effectivement, la consommation de tous les appareils qui sont reliés à Internet, c'est énorme. Mais une des choses que le logiciel libre permet, mais qu'on pourrait faire aussi sans logiciel libre, c'est arrêter de changer de téléphone tous les 2 ans. Hein, donc ça, bah, c'est Apple et Google qui nous forcent à changer de téléphone tous les 2 ans parce que les applications ne marchent plus, parce que... Enfin, on peut parler d'obsolescence programmée, je pense que tout le monde connaît à peu près ce concept. Et justement, le logiciel libre permet de pouvoir installer ce qu'on veut sur nos téléphones. Alors sur Apple, c'est un peu compliqué, mais sur le téléphone Android, on peut toujours installer des versions d'Android modifiées, sur lesquelles bah, il y aura moins cette obsolescence programmée de Google. Alors certes, on n'aura pas forcément accès aux toutes dernières applications. Là aussi, il faut peut-être se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir les dernières applications. Mais surtout, concernant l'usage pas forcément d'Internet, mais du web en particulier, bah, juste utiliser un bloqueur de pub, ça me semble déjà très important, parce que ça bloque, je sais pas, j'ai un onglet sur un journal ouvert en parallèle, voilà, je bloque 10% des requêtes, donc ça fait 10% de consommation en moins, juste parce que j'ai un bloqueur de pub. En fait, ce qui consomme le plus, ça va être la pub. Et cette pub, elle vient pas de nulle part, elle vient de l'analyse de données qui est faite, qui elle aussi est très consommatrice. Donc je pense que oui, on peut juste s'habituer à moins consommer, mais on peut surtout s'habituer à mieux consommer et arrêter de consommer des produits pleins de publicité, parce que il me semble que c'est quand même ce qui consomme le plus dans le web.
Oui, ça consomme énormément et c'est l'une des dépenses d'énergie principales d'Internet. En fait, c'est le stockage avec tous ces gros data centers qu'il faut alimenter en clim puisque ça chauffe beaucoup et faut refroidir tout ça. Et aujourd'hui, on a besoin de stocker des quantités de données qui sont énormes. Faut savoir que les GAFAM, mais pas que, stockent des données sur nous. C'est hallucinant. Je sais pas si vous avez déjà fait une demande, vous pouvez le faire aujourd'hui avec les lois européennes, faire une demande des données qu'ils ont sur vous et c'est énorme. Donc oui, en consommant mieux, on peut déjà réduire beaucoup, ben sensiblement en tout cas, sa consommation sur Internet.
Bon, du coup, je pense qu'on est d'accord qu'à terme, c'est pas forcément la solution, mais que déjà aujourd'hui, bah juste en faisant attention et en utilisant du logiciel libre, ou au moins les modèles du logiciel libre, on peut essayer de réduire un petit peu l'énorme consommation du web. Mais on a aussi pas mal parlé de low-tech. Est-ce que là aujourd'hui, on a des alternatives low-tech à tout ce qu'on fait ou pas? Je parle du numérique, pas forcément, toi tu parlais beaucoup de hardware. Est-ce que au niveau numérique, au niveau logiciel, on a des alternatives plus low-tech? Je sais pas si Sarah ou Romain, vous avez des vies là-dessus.
Personnellement, je sais pas trop. Alors, au niveau du logiciel, pas du tout au niveau de hardware. Au niveau, tu veux dire, logiciel libre, donc qui va consommer moins en données, etc.
Par exemple, ouais, en général, est-ce qu'on peut parler de low-tech pour du logiciel? Et qu'est-ce que ça voudrait dire?
C'est une bonne question. Donc, je pense qu'un logiciel qui serait low-tech, ce serait un logiciel qui va essayer de faire seulement ce qui est nécessaire. Du coup, éviter un peu ouais, tout ce qui est superflu et ce qui pourrait consommer pour rien. Au niveau du logiciel libre, il y en a. Donc, il y a des logiciels qui consomment beaucoup pour rien au niveau du logiciel libre, mais ce que permet en fait le logiciel libre, c'est de se réapproprier le logiciel pour qu'il fasse seulement ce qu'on veut, en fait, qu'il ne fasse rien de plus. Et des logiciels qui sont low-tech, alors des alternatives pour tout, je ne sais pas. Mais on a des alternatives pour pas mal de choses. Donc au niveau des traitements de texte, il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des systèmes d'exploitation, donc par exemple, on l'a dit, hein, au niveau des téléphones, pour Android, on peut installer des nouvelles versions d'Android qui sont, pour dire, libérées sur des anciens téléphones, donc pour éviter de changer de téléphone et ça permet de consommer un peu moins. Sur les ordinateurs, on peut installer Linux sur des vieux PC, donc là où aujourd'hui on a Windows qui ne va plus fonctionner sur les PC les plus anciens, on peut installer Linux qui peut permettre de prolonger la durée de vie des ordinateurs. Après, je ne sais pas trop, je connais pas trop.
Alors moi, je vois, par exemple, au niveau du web, hein, puisque je parlais du web tout à l'heure, Il y a le magazine lowtechmagazine.com qui offre aussi une version solar.lowtechmagazine.com et où en fait le site web fonctionne à l'énergie solaire et tout ce qui est fait dessus est fait pour consommer le moins possible. Donc les images par exemple, bah, c'est pas des images en haute définition, hein, c'est des images avec un traitement qui fait qu'elles sont en très basse résolution, mais qu'on comprend quand même ce qu'il y a dessus, qu'on voit tout à fait ce qu'il y a dessus, et je trouve ça même assez joli. Et il se trouve que le site ne fonctionne que s'il y a du soleil. Alors le serveur est à Barcelone, donc s'il y a du soleil à Barcelone, le site fonctionne. S'il n'y a pas de soleil à Barcelone, le site fonctionne pas.
Ah, c'est marrant ça,
Et
c'est
ben c'est comme
super.
ça, quoi.
C'est super.
Ouais, je trouve ça bien parce que bah ouais, si le truc est pas là, bah c'est pas grave, je reviendrai demain. T'en as pas
Et
besoin là tout de suite.
ça permet ouais, un peu de rééduquer les personnes puisqu'on s'est habitué à avoir des services disponibles 24 heures sur 24 et en fait, il n'y a pas vraiment de raison à ce que tout soit disponible 24 heures sur 24 derrière.
Oui, tout à fait.
Quand il n'y en a pas besoin, bah, il n'y en a pas besoin, voilà. Sarah,
C'est
tu as
juste.
peut-être quelque chose à ajouter?
Bah, c'est vrai que quand vous parlez du site comme ça me fait penser un peu au logiciel libre parce que c'est vrai que bah, plein de fois un pad ça va moins bien marcher qu'un Google Doc ou alors on va avoir beaucoup de problèmes ou des choses comme ça et en fait c'est comme tu dis un peu rééduquer les personnes que d'accepter que ok ça peut pas toujours marcher et on fait ce choix-là d'utiliser quelque chose d'un peu plus sobre et ça permet de changer un peu notre mode de pensée c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'immédiat et dans tout ce qui fonctionne bien et c'est vrai que on pourrait se dire que les outils que proposent les GAFAM, c'est plus pratique, c'est plus joli, c'est tout le monde l'utilise, donc c'est beaucoup mieux. Et au final, essayer d'accepter que voilà, on n'aura pas le truc le plus efficace, mais que c'est sobre et ça fait le taf, bah, je pense que c'est déjà un truc.
Oui, tout à fait. Là, par exemple, pour préparer cette émission, on avait tout fait sur un pad hébergé chez Picassoft. Il se trouve que depuis ce matin, les pads ne sont plus accessibles pour une raison qui m'échappe. Donc, il va falloir qu'on aille regarder dessus. Sauf que, bah, on n'a pas eu le temps parce qu'on avait d'autres choses à faire. Et bah, du coup, c'est pas grave, on a fait ça. Ça fonctionne très bien aussi.
Et on allait voir ailleurs, il y avait ailleurs où c'était disponible, bah on en a profité,
Voilà.
voilà.
On est allé sur entraide.chaton.org et on a trouvé d'autres chatons qui hébergeaient des pads, et c'était très bien. Mais du coup, oui, tout ça pour dire qu'effectivement, on n'a pas forcément besoin de l'instantanéité, de la disponibilité à 100%. Alors, je dis ça en tant que particulier, c'est vrai qu'en tant qu'entreprise, c'est un discours qui est plus compliqué à tenir. Parce que, bah ouais, si j'ai pas accès à mes mails pro quand j'ai besoin de mes mails pro, ça peut être plus problématique. Mais encore une fois, est-ce que ça l'est vraiment? Et combien même on réduirait uniquement la consommation perso et pas forcément pro, bah, je pense que ça serait déjà pas mal et ça nous habituerait du coup à ne pas forcément avoir cette haute disponibilité tout le temps.
C'est ça, il y a un gros souci en fait de rééducation derrière. On a passé beaucoup de temps à être habitué et pour autant ça n'avait aucun sens. Donc oui, voilà, faut rééduquer un peu les gens à ne pas avoir des choses qui sont 24 heures sur 24 dispo. Par exemple, la librairie de votre village n'est pas tout le temps ouverte. Et donc il n'y a aucune raison à ce que un site par exemple comme Amazon soit obligé d'être ouvert 24 heures sur 24.
Ouais, enfin, j'ai le Monoprix de mon village qui commence à être ouvert 24h sur 24 avec des robots.
Ah
Bon,
oui, c'est un autre problème. Bah non,
bon.
c'est pas forcément notre
Mais c'est pas
problème,
forcément notre
hein.
problème, non. Par le site de tech, est-ce qu'on a vraiment besoin de robots à
Ouais,
minuit
c'est vrai,
pour aller
c'est vrai.
acheter? On peut même pas acheter d'alcool le soir, qu'est-ce que tu vas acheter à minuit sans déconner? Et du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces robots ou est-ce qu'on peut juste attendre demain matin pour aller voir des humains? Ça consommerait
Ouais,
moins,
c'est
parce
vrai.
qu'il y a les éclairages aussi qui
Éclairage qui
tournent,
tourne.
enfin, pas mal de consommation due à ça, quoi. Est-ce que c'est nécessaire?
Ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de consommation pour rien finalement, puisque ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clients à minuit dans les Monoprix. Donc on a parlé oui des low-tech, et donc on peut parler oui juste vite fait de décentralisation. Donc on a évoqué là dans cet AirPad par exemple. Qui n'est plus disponible, bah tant pis, on est allé voir ailleurs. Et un des avantages de la décentralisation, c'est que bah, on a tous nos services qui ne sont pas disponibles 24h sur 24, mais si vraiment on en a besoin, bah, on peut aller voir ailleurs. Il y a peut-être un autre endroit où ça marche. Donc c'est un des avantages de la décentralisation.
Ce qu'il faudrait garder en tête, c'est que on considère pas que le logiciel libre, c'est la solution qui va nous sauver et qui va être perpétuellement durable. mais c'est plutôt qu'on adopte un mode de pensée qui est un peu plus sobre et qui se rapproche des mouvements de l'écologie, du respect de l'environnement, et c'est pour ça qu'on voulait faire le lien entre durabilité et logiciel libre, mais pas pour autant qu'on essaie d'invisibiliser la pollution que produit tout l'environnement numérique.
Alors, ça va être l'heure du quiz. Donc la question d'aujourd'hui, c'est quelle attitude adopter face au changement climatique? Et donc aujourd'hui, il y a seulement trois réponses et il y aura un intrus à trouver. Donc il faudrait construire des outils, des connaissances et des savoir-faire communs. Donc oui, construire ce qu'on appelle des communs. Adopter une sobriété, une forme de sobriété technologique et numérique. Ou alors construire une super intelligence artificielle avec nos gros super calculateurs pour savoir à quelle date exacte il faudra agir avant qu'il ne soit trop tard.
Eh ben, merci Romain. Je propose d'écouter la musique de cette semaine qui est Snowflakes Made in Africa de Rocavaco que nous avons trouvé sur ccmixter.org et qui est sous licence CC BY-NC. Voilà de retour, c'était donc Snowflakes Melts in Africa de Rocavaco. Romain, je te laisse annoncer les réponses.
Oui, donc la réponse, donc plutôt l'intrus, c'était construire une super IA avec nos plus gros super calculateurs pour pouvoir savoir à quelle date il faut agir avant que ce soit trop tard. Donc c'est dommage. Mais oui, la construction d'outils et de connaissances communes, donc on l'a montré au cours de l'émission, c'est super important. Et ça ne va pas sans adopter une forme de sobriété technologique et numérique. C'est tout pour aujourd'hui.
Et de toute façon, si on faisait une super IA pour nous dire quand ce serait trop tard, bah, on dirait que c'était trop tard il y a 50 ans.
Eh oui. C'est tout pour aujourd'hui.
Voilà,
Voilà.
pour une fois une émission pas trop longue. Eh ben merci Romain, merci Sarah.
Merci.
Merci à vous.
Et je vous souhaite à tous un bon week-end.